Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur les deux derniers modèles des rapports entre l'Église et l'État. Alors, quand je dis deux derniers, vous vous en doutez, il y en a bien d'autres. Souvent des petits dérivés des différents modèles que nous avons déjà vus et que nous verrons encore ce matin. Puis dimanche prochain, on essaiera de faire un peu la somme de tout ça, en essayant de voir quelle voie médiane on peut tracer pour que nous puissions avoir un rapport juste avec le monde en tant que chrétien, en tant qu'Église. Alors, les deux derniers modèles que l'on va voir aujourd'hui, je vais commencer par le premier, c'est assez normal, c'est le modèle dit des deux règnes ou des deux royaumes. Alors, on pense spontanément, pour ceux qui ont un peu de culture ecclésiologique, au réformateur Martin Luther quand on envisage ce modèle. Bonjour Martin. Pourtant, c'est saint Augustin, dans son livre « La cité de Dieu », qui l'a le premier théorisé. Cette approche a d'ailleurs eu une influence certaine pendant tout le Moyen-Âge. Luther doit donc beaucoup à l'évêque d'Hippone sur ce coup-là. Augustin ressentit le besoin d'écrire ce livre car l'Empire romain, qui était déjà chrétien à l'époque, passait par des moments très difficiles. En effet, des peuples barbares, majoritairement germaniques, franchissaient de plus en plus les frontières de l'Empire pour s'y livrer au pillage, aux destructions, etc. Donc, autrement dit, l'Empire était de plus en plus fragilisé. De là le questionnement des Romains. Lorsque nous vénérions nos anciens dieux, avant d'être chrétiens donc, nous étions victorieux sur tous les champs de bataille, notre empire dirigeait, régnait sur le monde. Et à présent, nous sommes chrétiens, nous ne connaissons que défaite. Après défaite, notre empire s'effrite et nous vivons dans la peur des invasions. Alors, pour répondre à cette interrogation, Augustin a donc écrit « La cité de Dieu », que je tiens à votre disposition si ça vous intéresse. Il y a 4 volumes, donc ça va. Ouvrage dans lequel il tente d'expliquer la notion des deux règnes, justement, ou des deux royaumes. Notion selon laquelle Dieu gouverne la création par ce qu'il appelle le royaume commun, dans lequel les gens connaissent le bien et le mal au travers de la révélation naturelle, autrement dit par la conscience et le bon sens commun. Encore aujourd'hui, où il y a des non-chrétiens qui ont du bon sens et qui tentent quand même d'être des gens comme il faut. C'est ce qu'on appelle donc le royaume commun. Ces personnes font partie du royaume commun ou de la grâce commune. Et puis, de l'autre côté, il y a le royaume de la rédemption, le royaume des rachetés, le royaume de Dieu, dans lequel les chrétiens sont dirigés non pas par la révélation naturelle, mais par la révélation spéciale, par l'évangile, par la parole de Dieu, puisqu'ils l'ont reçu, ils l'ont connu et y ont adhéré. C'est donc dans cet ouvrage qu'Augustin d'Hippone théorise également la notion de guerre juste. C'est lui qui a inventé cette notion. Toujours en rapport avec ce que l'Empire romain connaissait. Est-ce qu'un chrétien peut prendre les armes contre un ennemi? Est-ce qu'il peut donc user de violence? Dans certains cas, est-ce qu'il peut, au bout du compte, tuer des gens? Alors, il a théorisé cette notion de guerre juste en disant ceci, dont la guerre juste, c'est le droit qu'a tout peuple de se défendre contre un agresseur extérieur. C'est la seule cause. On vous envahit, vous avez le droit de vous défendre, même si vous êtes chrétien. À sa suite, Martin Luther et bien d'autres après lui défendront l'idée qu'un chrétien, pour lutter contre le mal, a le droit d'employer des moyens extrêmes, donc comme la guerre et la violence. La base fondamentale de ce modèle vient donc de l'enseignement selon lequel Dieu gouverne la création, mais de deux manières distinctes. Donc il y a le royaume commun, ou royaume terrestre, établi par l'alliance avec Noé, après le déluge, et on trouve ce texte en Genèse 9, on ne va pas le prendre, hein. Vous connaissez cette histoire, juste après le déluge, Dieu refait alliance avec Noé, et promet déjà de ne plus détruire l'homme et la création au moyen de l'eau. Alors tous les êtres humains sont, vous l'avez compris ça sans doute, sont membres de ce royaume, donc dans lequel les gens connaissent le bien et le mal par l'éclairage de la nature et la conscience humaine qui donne à tous justement une conscience intuitive des normes de comportement fixées par Dieu. C'est ce que Paul explique en Romains 1, on a vu ce texte il y a quelques semaines. Ainsi que la sagesse, et grâce à la sagesse et à la perspicacité, de sorte que soit restreinte l'action du péché dans le monde. C'est pour ça que Dieu a donné la conscience et qu'il a donné la révélation naturelle pour que l'homme, même sans Dieu, puisse quand même limiter l'influence du mal dans le monde. Je donne un exemple. Même si quelqu'un ne croit pas en l'enseignement biblique selon lequel Dieu a fait les hommes à son image, par définition un non-chrétien ne va pas croire ça, le caractère sacré et la dignité de chaque être humain peuvent lui être connus de manière instinctive sans l'appui de la Bible. Il y a des gens qui défendent la dignité humaine sans être chrétiens pour autant. Donc dans ce modèle, les chrétiens devraient pouvoir travailler aux côtés de non-chrétiens comme des concitoyens pouvant vivre ensemble en vertu donc de la grâce commune de Dieu. C'est le principe selon lequel Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. C'est la grâce commune. La conséquence de tout ça, c'est que les chrétiens n'ont pas cherché à imposer les normes bibliques à la société, mais plutôt à faire appel à la compréhension commune du bien, du vrai et du beau, à laquelle tous peuvent donc avoir accès par la révélation commune. Donc dans ce royaume commun, notre responsabilité est d'aimer notre prochain et de nous mettre à son service. À ce royaume commun ou terrestre, il faut donc ajouter forcément le royaume de Dieu ou de la rédemption. Ce royaume a par contre été établi par l'alliance conclue avec Abraham. En Genèse 12, puisque Paul, entre autres, redira, et même Jésus, que les véritables descendants d'Abraham, ce sont ses descendants spirituels, et pas les juifs qui étaient ses descendants dans la chair. Donc il y a deux alliances. L'alliance à travers Noé avec la création et l'alliance à travers Abraham pour ceux qui croiraient. Donc seuls les chrétiens sont donc membres de ce royaume de Dieu où ils sont dirigés non par la grâce commune, par la conscience par exemple, même si on en a une aussi bien entendu, et par la révélation naturelle, mais par la révélation spéciale de la parole de Dieu. Ils sont nourris au sein de l'Église au moyen de la prédication de la parole de Dieu et des sacrements. C'est ce que Luther dit. D'accord. Essayez de retenir quelques détails au passage. Toujours intéressant. Donc, selon cette conception, l'édification de l'Église, l'évangélisation, la formation de disciples et la communion fraternelle sont la seule œuvre du royaume qui soit vraiment rédemptrice, porteuse de salut. C'est ce qui se passe dans l'Église, si vous préférez. C'est à travers l'Église et dans l'Église que se passent les choses qui sont porteuses de salut. Les participants de ce modèle, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, considèrent que le problème principal n'est autre que la confusion des deux royaumes, que ce soit par une Église libérale, rappelez-vous, aspirant à la pertinence culturelle, ou par des conservateurs cherchant à transformer la culture en culture chrétienne. Donc ce modèle-ci s'en distancie. Ça signifie que les chrétiens ne sont pas là pour travailler à créer une culture spécifiquement chrétienne. Ils ne doivent pas chercher à changer la culture pour qu'elle reflète les convictions chrétiennes. Ils ne doivent pas penser non plus qu'il leur appartient de guérir la création. En effet, l'action de Dieu dans le royaume commun consiste seulement à contenir donc pour un temps, à limiter la puissance du mal et non à améliorer la culture, en atténuant les effets du péché sur la société humaine. Ça ne sert à rien, puisque le monde va à sa perte. Donc tout ce qui se passe dans le royaume terrestre est donc temporel, provisoire, et forcément, pour tout ce qui est temporel, est voué à disparaître. Alors, ça ne signifie pas pour autant que les chrétiens n'ont rien à faire dans le monde. Ils doivent se mettre au service de Dieu et de leur prochain, je l'ai dit, mais ils ne restaureront pas en faisant ça la création et ne feront pas évoluer la culture dans une direction plus chrétienne, comme le prétendent par exemple les adeptes du modèle de chrétienté. C'est là que les tenants des deux royaumes rejoignent, et on verra ce modèle juste après, les partisans de ce qu'on appelle la contre-culture, mais ça on en parlera juste après. Donc le travail de l'Église ne consiste donc pas à changer la société, ça c'est peut-être une bonne nouvelle, mais simplement à être l'Église, en quelque sorte. Il n'y a aucune justification biblique à chercher à créer une société chrétienne, car, encore une fois, tout sur la terre est voué à la destruction. Et là, je vais reprendre ce beau texte, si je peux dire, de notre ami Pierre, dans sa deuxième lettre. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés, fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera donc. Par rapport à ce que Pierre, entre autres, dit, à quoi ça, donc, ça servirait donc de tenter de christianiser cette société, cette création, en tentant de la sauver d'elle-même, puisqu'elle est vouée à la destruction. Donc, tout doit être détruit, sauf notre âme et notre corps ressuscités. Par conséquent, rien que de ce que nous faisons dans le royaume commun n'est d'une importance durable. Petite parenthèse, c'est pas pour ça que, on va parler d'écologie deux secondes, c'est pas pour ça qu'il faut commencer à en avoir rien à faire de la création, d'ajouter vos papiers par terre, parce que nous, en tant que chrétiens individuellement, nous restons responsables de la façon dont nous gérons la création que Dieu a créée, même si l'homme est en train de la détruire. Vous aurez bien compris. On doit se distinguer à ce niveau-là aussi. Donc notre espérance doit être placée non pas en ce monde qui passe, mais dans la venue finale du salut, lors du retour de Christ, ce dont Pierre parle ici dans ce passage. Alors la limite de ce modèle, ils en ont tous une, hein, au moins, forcément, on en parlera la semaine prochaine, c'est que le chrétien est à la fois juste et pécheur aussi longtemps qu'il est en ce monde. Et ce qui signifie qu'il a besoin des deux règnes, parce qu'il en fait partie. Il est à la fois membre de l'Église et sujet du prince, ou si vous préférez aujourd'hui, puisque des princes, il n'y en a plus vraiment, il est citoyen de l'État, le chrétien. Il a des responsabilités au niveau de l'État. On ne peut pas donc trop distinguer les deux en permanence. Par exemple, tous les matins, lorsque nous ouvrons les yeux sur un nouveau jour, au même instant, je rappelle ça parce que c'est important, c'est un pécheur et un saint qui s'éveillent en même temps. Donc une partie, j'ai envie de dire, est du monde et l'autre est de Dieu, même si nous sommes de Dieu, bien sûr. Et cette vision dont des deux règnes fonde d'ailleurs, à mon sens, la laïcité de l'État. C'est d'ailleurs Luther qui le dit lui-même. Même s'il restait attaché à la dimension de chrétienté aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que les modèles, ils sont parfois ambivalents, même par rapport à ce qu'en ont dit les défenseurs de ces différents modèles. Voilà ce qu'il dit Luther. On n'a pas besoin de chrétiens pour l'autorité. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'empereur soit un saint, donc un chrétien. Il n'est pas nécessaire pour son gouvernement qu'il soit chrétien. Il suffit à l'empereur d'avoir la raison, d'avoir du bon sens, probablement d'être un peu honnête, enfin, etc. quoi. Des données communes qu'on retrouve, je ne vais pas dire que c'est chez tous les hommes, mais chez de nombreuses personnes, même en dehors de l'Église. Autrement dit, ce que Luther affirme, c'est qu'une autorité chrétienne n'est pas plus légitime qu'une autre dans ce royaume-là, dans le monde. Donc ce serait pour lui idiot que des chrétiens rentrent en politique pour obtenir, par exemple, le pouvoir, le premier ministre, etc., etc., pour changer les choses dans une perspective chrétienne. De toute façon, bon courage, hein, pour ceux qui voudraient essayer. Je ne voudrais pas non plus empêcher les vocations, même tardives. Donc c'est la raison pour laquelle, dit Luther, vous ne trouverez pas dans l'Évangile un mode d'emploi sur le comment concevoir le pouvoir et comment le gérer. C'est vrai, il pouvait ouvrir l'Évangile, vous ne trouverez pas. Aucun texte ne va vous dire comment le monde, les gouvernements devraient être gérés. Les seules injonctions en rapport avec les autorités, rappelez-vous, hein, nous invitent à nous soumettre simplement à elles pour les raisons déjà évoquées. Je prendrai ce texte en terminant. En Romains 13. Le seul passage restrictif concernant le pouvoir concerne l'Église dans l'Évangile. La seule fois où Jésus va donner un enseignement sur la notion d'autorité, c'est pour comparer ce qui doit se passer à l'Église d'avec ce qui se passe dans le monde, en disant les deux ne peuvent pas fonctionner pareil. On va prendre ce texte. Donc le monde, les autorités, le gouvernement du monde ne peuvent pas servir de modèle pour le gouvernement de l'Église. Jésus les appela, les disciples, et leur dit: vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Donc quand une église est hiérarchisée, il y a déjà un méchant problème. Quand l'église devient un lieu de pouvoir, on a un gros problème. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, L'ambition, bon, Jésus dit, ben, l'ambition, c'est bien spirituellement. Ils ont envie de grandir et d'avoir des responsabilités dans l'Église. Why not, hein? Pourquoi pas? Ben, si quelqu'un veut être grand, il sera votre serviteur. Il renverse un peu la table, Jésus, quand même. Il casse le modèle d'autorité traditionnelle. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ou votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est le modèle de ce modèle d'autorité et de gestion des choses. Autrement dit, pas d'exercice du pouvoir dans l'Église, il ne peut pas y avoir de lutte de pouvoir dans l'Église. Il ne peut pas. Mais uniquement de la responsabilité vécue dans un esprit d'amour et de service. Rappelez-vous, hein, c'est la bassine et l'essuie. Hein. C'est le lavement des pieds. Quoi. Tu veux être le plus grand, ben, tu dois servir tes frères et tes sœurs. Alors vous aurez remarqué au passage que si Jésus dénonce le modèle de pouvoir hiérarchique à l'œuvre dans le monde et qu'il n'en veut pas dans son Église, c'est parce que ce modèle est bien appelé à perdurer dans le monde. Il ne changera pas ce modèle-là dans le monde. Ce sera différent dans l'Église, mais Jésus n'est pas naïf. Il sait très bien que ce modèle continuera à fonctionner dans le monde. Et j'ai envie de dire, même en démocratie, hein, ne nous faisons pas d'illusions. La responsabilité et le pouvoir est réparti, mais ce sont, plutôt que d'avoir un despote, on a parfois des petits despotes. Puisqu'on a un gros, on en a des petits. S'il n'y avait pas de pouvoir, ils ne se passeraient pas tous comme ça pour passer 40 ans en politique. Il faut quand même... Voilà. Ce n'est pas pour vous faire gratuit qu'ils font ça. Hein. C'est parce que le pouvoir, ça grise, hein, sans doute. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de pouvoir. Luther finit lui-même par reconnaître qu'il vaut malgré tout mieux que le gouvernant, pour vous dire que ce n'est pas toujours clair dans sa pensée non plus, il dit quand même que dans l'absolu, ce n'est pas nécessaire que le gouvernant soit chrétien, c'est quand même mieux qu'il le soit. Et à son époque, il y a des rois chrétiens, bon, de véritables rois chrétiens ou pas d'ailleurs, suivant encore une fois les contingences politiques. Mais voilà ce que Luther dit. Il serait bon et nécessaire que tous les princes soient de bons chrétiens. Ce n'est pas indispensable, mais ce serait quand même bien. Car le glaive, donc la justice, c'est le symbole de la justice, le glaive, hein, et le pouvoir, donc le politique, considéré comme un service de Dieu particulier, reviennent aux chrétiens avant tous les autres sur terre. Pourquoi ? Parce que normalement, même un gouvernant chrétien devrait gouverner les choses dans le royaume commun, dans le royaume de la grâce commune, en étant soumis à Dieu et en se référant à sa parole. Donc pour Luther, c'est quand même un mieux que le gouvernant soit chrétien. Autrement dit, être chrétien n'est pas une compétence, mais ne pas l'être peut devenir un problème quand il s'agit de pouvoir, de conquête ou d'ambition. Et puis, pour Luther, qui vivait quand même à titre personnel des situations excessivement stressantes, c'était son intérêt que le gouvernant soit chrétien comme lui, soit protestant comme lui. Salut. Pour lui, c'était moins de problèmes en perspective, évidemment. Rappelons encore, par exemple, que Luther et Calvin ont invité les princes de leur temps à faire de la réforme protestante la loi de leur royaume. Si aujourd'hui il y a des pays qui sont sociologiquement protestants, ça vient de là, quoi. Sans l'Espagne, toute l'Europe, si l'Espagne n'avait pas résisté, toute l'Europe serait devenue protestante. C'est dommage, hein? Nous ne sommes donc pas là pour transformer la société, mais il serait bon que celle-ci soit influencée par des hommes et des femmes qui ont à cœur de servir Dieu tout en servant les hommes. Et si vous voulez servir tous les hommes, c'est assez logique de se dire que vous devrez quand même avoir un service ou un témoignage chrétien dans le monde. Donc Luther, tout en invitant les chrétiens à servir Dieu dans le monde, ne croyait pas que l'on puisse travailler de manière spécifiquement chrétienne. Ça, c'est particulier de sa pensée aussi. Alors, techniquement, il a sans doute raison, hein. Mais dans l'intention et les valeurs qui sous-tendent le travail, je pense qu'il y a moyen de montrer qu'on est chrétien. Alors je prends un exemple, il y en a d'autres. Si je suis mécanicien, auto, hein, je précise, ben je ferai la vidange d'huile que je facture au client, même si l'huile me semble encore bonne. Certains, quand ils voient que l'huile est encore bonne, ils facturent la vidange, ils ne la font pas. C'est un grand classique, hein, j'invente rien. J'ai vu assez d'émissions caméra cachée quand ils allaient avec une panne ou l'autre chez un mécanicien pour voir que tous ne sont pas très honnêtes. Donc le chrétien mécanicien, il sera tout simplement honnête. C'est le moins qu'on puisse attendre d'un chrétien dans son travail. Donc un chrétien, s'il travaille un travail de bureau, s'il a les BIC, les télécommandes, enfin pas les télécommandes, les calculatrices à disposition autant qu'il veut, ben, si les gosses ont besoin de BIC, il ira les acheter, il ne les prendra pas à son bureau pour les ramener à la maison. C'est des détails, hein. Mais bon. Je ne ferai pas de noir au niveau de ma facturation. Mais il est vrai qu'au demeurant, un autre mécanicien non chrétien, celui-là, pourra faire son travail tout aussi bien que moi, si pas plus, parce qu'il sera plus compétent. Mais je pense qu'il y a quand même derrière chaque travail un moyen de le faire de manière chrétienne, avec les valeurs chrétiennes à l'appui. De plus, par exemple, en étant plus patient que les autres avec un client difficile. Bon, je sais bien que je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes, hein, mais enfin bon. Donc, sur le lieu de travail, tout le monde peut avoir une mauvaise réputation, sauf le chrétien. Il faut encore dire qu'une bonne partie du bien produit en ce monde, parce que c'est ça aussi, là je vais essayer d'être clair, parce qu'apparemment ça ne l'était pas. On pourrait dire, en partant de ce modèle avancé par Luther, que tout le bien produit dans le monde ne l'est que par la conscience des gens qui ne connaissent pas Dieu, etc., et par leur vague parfois distinction du bien, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais ce serait quand même justement négliger et sous-estimer l'influence qu'ont les chrétiens dans la société, dans le monde. Et que malgré tout, à un certain niveau, et on va y venir, la société qui ne se soumet pas à Dieu est malgré tout influencée par la présence des chrétiens dans le monde. Vous voyez, donc, que les deux royaumes sont bien entendu séparés spirituellement. On est mort ou vivant, vous savez bien, nous sommes normalement vivants et eux sont morts. Mais il n'empêche qu'il y a une influence du vivant, de l'Église, dans le royaume du monde. Vous suivez? Un autre exemple. J'ai d'ailleurs, je pense, donné un message il y a quelques années sur le sujet. L'idée même des droits de l'homme. Quand vous entendez les gens en parler entre eux, nos amis français, les droits de l'homme, c'est eux. Hein, ils ont tout inventé. Hein, il n'y a pas que les droits de l'homme, d'ailleurs, qu'ils ont tout inventé. Enfin, soit. C'est, je crois, un truc spécifique franco-français, ça. Donc, l'idée même des droits de l'homme vient de l'enseignement chrétien sur l'image de Dieu, sur l'homme, image de Dieu. C'est de là que ça vient, en fait. Hein, le respect de l'homme, de tous les hommes. C'est une valeur chrétienne, ça, qui n'existait pas avant. Cette notion des droits de l'homme nous paraît aller de soi aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Mais celle-ci n'aurait sans doute jamais vu le jour dans des cultures ayant une autre conception de la nature humaine. On parle de la démocratie grecque, antique, Athènes, etc. Mais ils avaient des esclaves. Hein. Si les Grecs, même de basse extraction, pouvaient passer des jours et parfois des heures, enfin, voire des semaines ou des années à légiférer et à voter démocratiquement dans la cité, pour la vie de la cité, c'est parce que dans le même temps, les mêmes cités faisaient des esclaves. Et ces esclaves remplaçaient les Grecs de basse extraction qui pouvaient voter et passer du temps à gérer la cité. Vous me suivez? Donc c'était de l'impérialisme, quoi. Mais on appelle ça de la démocratie quand même, parce qu'au niveau des Grecs, en tout cas, eux pouvaient, étaient libres et pouvaient participer à la direction de la cité. Donc même dans cette culture qui était soi-disant démocratique, on est loin du modèle de démocratie ici. Et moi, je défends l'idée que c'est grâce aux valeurs chrétiennes qu'on en est arrivé à la chose démocratique. Si on ne se fait plus la guerre en Europe, en tout cas pour l'instant, c'est parce qu'on a appris à se parler et à s'écouter et à faire des compromis. Ce sont des valeurs chrétiennes, ça, hein, l'écoute, le pardon, la remise en question. Avant, vous n'êtes pas d'accord, vous donnez un grand coup d'épée sur la tête et puis c'était terminé, hein. Donc si la grande majorité de nos contemporains adhèrent à cette notion de droit de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas grâce à une révélation naturelle liée à leur conscience, elle n'aurait pas tombé du ciel, mais bien une révélation spéciale liée à l'enseignement de la Bible, même s'il est aujourd'hui compris dans un sens plus universel et détaché de ses racines chrétiennes. Qu'un philosophe athée aujourd'hui ne vous dira que les droits de l'homme sont dans la Bible, et pourtant. Donc c'est bien la civilisation chrétienne qui a fait naître la valeur de l'être humain, le pardon, l'amour, la philanthropie, toutes choses absentes des sociétés païennes, occidentales et orientales. Aller en Inde encore aujourd'hui, c'est une société terriblement hiérarchisée sur la base des castes. Et quand vous naissez dans une caste, vous ne savez pas en sortir, il n'y a pas de promotion sociale. Hein. Faites partie, vous êtes né dans la caste des intouchables, donc la plus basse, vous ne montrez jamais, hein. Vous ne pourrez pas C'est comme ça et il faut l'accepter. Et encore une fois, je ne parle pas d'il y a 3000 ans, hein, je parle d'aujourd'hui. Hein. Donc l'idée même de la démocratie, je l'ai dit, même si un premier modèle de ce type existait dans la Grèce antique, n'aurait pas été possible sans la présence de la culture chrétienne au sein de la société occidentale. Autrement dit, il y a quand même un transfert, j'allais dire de compétences, mais plutôt de valeurs, de l'Église dans la société à la société. Enfin, il me semble. Prenons un exemple précis d'influence chrétienne dans la culture et changeant la culture. Le mouvement abolitionniste, donc, le mouvement qui a mis fin à l'esclavage, ben, ce mouvement a été emmené par des chrétiens évangéliques. Il y a peu de gens qui savent ça. C'était des chrétiens évangéliques qui se sont levés pour combattre l'esclavage. Et en tête, William Wilberforce et d'autres. Le voilà le petit William. L'action de ces chrétiens était fondée et inspirée par des conceptions de la nature humaine empruntées à la révélation biblique. Pour eux, tout homme, toute femme était image de Dieu. Donc c'était hors de question que certains soient esclaves des autres. Pour eux, Bible en main, c'était inconcevable qu'on fonctionne comme ça. Alors ça paraît aussi évident ce genre de réflexion aujourd'hui, mais à l'époque, il y a peu de gens qui réfléchissaient comme ça. C'était normal, excuse-moi, hein, Pierrette, que les Africains soient esclaves. C'était normal, ils étaient là pour ça. Donc pour casser cette façon de penser, eux n'ont pas eu de mal parce qu'ils étaient habités par l'Esprit de Dieu et habités par la révélation biblique. Alors, même si c'était les chrétiens évangéliques à la base de ce mouvement, il faut quand même retenir une évidence. Leurs efforts n'auraient jamais été couronnés de succès si l'appel à l'abolition de l'esclavage n'avait pas aussi retenti dans le cœur et la conscience de plusieurs non-chrétiens. Vous êtes quatre évangéliques qui sont convaincus et vous remuez ciel et terre pour arrêter l'esclavage. S'il n'y a pas d'autres parlementaires non-chrétiens qui adhèrent à vos idées, ben la loi passe pas, quoi. Donc là, ces non-chrétiens ont été d'un côté influencés par l'impact de l'argumentaire chrétien et d'un autre côté par les relations communes, par leur conscience qui leur avait été donnée par Dieu. Bonjour, la question, hein. Est-ce que d'autres religions que le christianisme ou d'autres personnes que des personnes chrétiennes et habitées par les révélations bibliques auraient pu donner naissance à l'idée selon laquelle l'esclavage est mauvais en soi? Moi, j'en suis pas sûr, hein. Alors, historiquement, c'est certain, l'idée s'est développée à partir d'une réflexion chrétienne sur la notion d'image de Dieu, d'homme en image de Dieu. En d'autres termes, l'esclavage n'aurait pu être aboli sans la grâce commune, sans qu'une majorité de gens soient convaincus qu'il fallait arrêter l'esclavage, mais il n'aurait jamais été aboli en vertu de la seule grâce commune. Si les chrétiens n'étaient pas intervenus, il ne se serait rien passé. Hein. Vous comprenez? Les deux ont été nécessaires pour qu'on y arrive. Mais à l'initiative, s'il n'y a pas les chrétiens, il n'y a rien qui se passe. Alors, petite parenthèse, il faut quand même être juste. D'autres systèmes d'esclavage, comme la ségrégation, l'apartheid en Afrique du Sud, ont été malheureusement défendus par ce qu'on peut appeler ça des chrétiens. Le simple fait de le dire, ça prouve ce qu'ils ont fait, ça prouve qu'ils ne l'étaient pas, sur base d'une mauvaise exégèse, d'une mauvaise lecture des textes, entre autres de Genèse 9. Donc, en y réfléchissant bien, pousser le modèle de Luther jusqu'au bout reviendra à admettre qu'il est possible pour l'être humain de mener sa vie sur une base neutre d'un point de vue religieux. En effet, selon ce modèle, l'État est séculier et neutre. Alors que dans sa réalité sociologique à lui, au XVIe siècle, il était tout sauf ça. Hein. Il était catholique, enfin, vaguement catholique, et puis certains sont devenus protestants. Donc, aucune perspective chrétienne sur le droit, le gouvernement, l'économie et l'art n'est nécessaire, d'après Luther. Tout est neutre au niveau de l'État. Seulement voilà, la sécularisation de l'État est en fin de compte une impossibilité, mes amis. On en parle encore beaucoup aujourd'hui, hein, est-ce qu'on met la laïcité en Belgique dans la Constitution ou pas. L'État séculier, que l'État serait neutre, c'est un mythe. Enfin, pour le dire autrement, c'est pas vrai. Et sous sa forme actuelle, que ce soit en France ou ici, hein, c'est une conséquence hypocrite, donc des Lumières, hein, j'en ai parlé aussi, période bénie pour certains, où la raison de l'homme a pris le pas sur l'obscurantisme religieux. Alors pourquoi peut-on affirmer que la neutralité est un mythe? Eh bien, parce que nos pratiques sont inévitablement racinées dans des croyances fondamentales au sujet du bien et du mal, de la nature humaine et de sa destinée, du sens de la vie, de ce qui ne tourne pas rond dans la société humaine et de ce qui réglera le problème de ce qui ne tourne pas rond. Toutes ces hypothèses élémentaires sont basées sur des présupposés de foi ou de croyance. Un athée, il n'a pas la foi, mais il a des croyances. Il croit déjà que Dieu n'existe pas. C'est une croyance, c'est une forme de foi. Et sa conception de la société va donc découler de son positionnement par rapport à ce qu'il croit ou pas. Par exemple, quelqu'un qui dit que les femmes devraient avoir le droit de choisir d'avorter, d'un côté. Et puis d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui dit que les femmes ne devraient pas avoir le droit d'avorter. Chacun évalue les choses différemment. Cette évaluation est toujours basée sur des convictions morales qui ne sont pas fondées scientifiquement. Et si ce n'est pas scientifique, ce sont des positionnements idéologiques, de valeurs, de croyances. Donc quand je dis foi, je mets les athées dedans aussi, parce que pour le coup, quand ils sont convaincus que la femme a le droit de liberté d'user de son corps comme elle veut, etc., etc., ce sont des positionnements de type croyance. Ces hypothèses sont donc des actes de foi, même bien entendu, si un athée ne le qualifiera pas comme ça, et par conséquent, un état neutre et séculier ne peut pas exister. Toutes les cultures et tous les gouvernements sont animés par certains de ces actes de foi et non pas d'autres. Et ça influence la société. Il est d'ailleurs possible de démontrer que même ceux qui se disent athées et anti-religieux ont en fait été christianisés, même s'ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas le savoir. La plupart d'entre eux sont sensibles à des choses comme l'humilité, le pardon, la recherche de la paix, le service du prochain, la protection des plus fragiles, de même que le respect de la dignité de tous les êtres humains faire l'image de Dieu. La plupart des non-chrétiens, en tout cas dans notre société, sont plutôt sur cette ligne-là, ne fût-ce que publiquement. Privé, ça on ne sait pas, mais publiquement, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut défendre les plus fragiles, etc. Cette façon de penser et d'accorder de la valeur à ces choses que je viens d'énoncer est le résultat de la christianisation de la société occidentale. Ces éléments n'existaient pas avant le christianisme. Ces valeurs n'étaient absolument pas celles que l'on trouvait en Europe avant la progression du christianisme et l'arrivée des premiers missionnaires en Europe du Nord. Avant que les premiers missionnaires partent en Europe, en Scandinavie, en Irlande, ils massacraient tout le monde, ils s'entretuaient comme partout dans le monde. Si on a commencé à fonctionner autrement, c'est grâce à l'implantation d'églises et la proclamation de l'évangile. On peut donc dire que ce qu'il y a de bon et d'unique dans la société occidentale est en réalité une dette, je fais exprès de dire dette, à l'égard de la foi chrétienne, même si les éléments surnaturels de la foi ont été par ailleurs laissés de côté dans la sphère publique. On a bien compris, la plupart ne croient pas en Dieu, mais ils sont héritiers du christianisme quand même. Vous leur dites, ils vont tomber de leur chaise, ça va les énerver prodigieusement, mais c'est une réalité. Personne n'est donc neutre, donc aucun État ne peut l'être, même s'il prétend l'être. Je passe au modèle suivant. Je suis disponible pour les questions s'il y en a. Je sais qu'il n'y en aura pas parce que vous comprenez tout extraordinairement bien. Et voilà, vous maîtrisez, je sais bien. Alors notre dernier modèle de rapport à l'Église, de l'Église au monde, pardon, est celui dit de la contre-culture ou, pour le dire autrement, de séparation d'avec le monde. Alors les partisans de ce modèle mettent l'accent sur l'Église comme société qui contraste ou en contraste avec le monde. On devrait voir la différence entre l'Église et le monde. Alors vous aurez remarqué que tous les modèles parlent de l'importance du concept de royaume de Dieu, forcément. Mais celui-ci a ceci de particulier qu'il insiste fortement sur le fait que le royaume se manifeste principalement sous la forme d'une communauté ecclésiale qui est en opposition avec le royaume de ce monde. Il n'y a pas de partenariat, il y a une opposition. Rappelons également que ni Luther, ni Calvin ne voulaient sortir de la chrétienté. Ils voulaient simplement la réformer. La nuance est subtile, mais elle est importante. Ils sont fait excommunier. Après, c'est difficile de réformer quelque chose quand on n'en fait plus partie, puisqu'ils ont été virés, en gros. Alors, ce n'était pas l'avis de ceux qui ont rompu avec cette vision des choses au sein de la réforme protestante et qui prenaient donc une rupture totale d'avec le monde et qu'on a baptisé, c'est le cas de le dire, les anabaptistes. Littéralement, ceux qui baptisent une seconde fois. Parce qu'ils refusaient, par exemple, le baptême des bébés, ce qu'acceptaient de faire Luther, Calvin et de nombreux réformateurs. Déjà parce qu'ils avaient des liens avec le politique. Quand le prince d'un royaume qui était devenu protestant voulait faire baptiser ses bébés parce qu'il était d'un héritage catholique, les réformateurs le faisaient. Alors pas seulement par intérêt politique, mais aussi parce qu'ils croyaient, Luther, je pense, qu'il disait que le baptême, ça introduisait une flamme divine dans le bébé. Aucun soutien biblique, ça. Hein, pour le coup, pourtant, il était protestant. Hein. Et Calvin lui disait que le baptême de l'enfant, c'était l'équivalent de la circoncision dans l'Ancien Testament. Aucun soutien biblique non plus, hein, sur ce coup-là. Et pourtant, Dieu sait si Calvin était un solide bonhomme. Hein. Donc, parmi les protestants, il y a des protestants qui ont dit « Ça, c'est terminé. Nous, on sort de la réforme. On va faire une autre réforme, si je peux dire, dans la réforme. » Donc, ces anabaptistes ne baptisaient que les adultes. Essayez de repérer les liens quand même, hein, avec aujourd'hui, hein, c'est important. Bon, l'intérêt de tous ces messages, c'est aussi de savoir d'où vous venez, accessoirement. Hein. Donc, ces hommes et ces femmes se démarquaient en cela, donc de Luther et Calvin, figures tutélaires de la réforme, et pour ces deux raisons, donc le rapport à l'État, les anabaptistes n'en voulaient pas, et le baptême des enfants, ben, les anabaptistes subirent bien des tracas de la part même de leurs frères réformés. Et quand je dis tracas, je suis gentil, en fait, ils étaient persécutés, hein, soyons clairs, par les protestants des églises officielles. Donc les adeptes de la contre-culture ou de séparation d'avec le monde reconnaissent eux aussi les deux règnes, dont là-dessus ils sont sur la même ligne que Luther. Cependant, la différence marquante se situe au niveau de l'endroit où se marque la séparation, où on met la ligne. Pour Luther, la ligne de séparation se situe à l'intérieur des personnes, t'es soit vivant, soit t'es mort. C'est ça la séparation. Soit t'es du royaume des vivants, du royaume de Dieu, soit t'es du royaume des morts, le royaume de la révélation générale. Pour les anabaptistes, la ligne, elle passe entre les personnes. Vous comprenez ? Pas à l'intérieur des personnes, entre les personnes. Ils séparent, j'ai envie de dire, les personnes. Donc le chrétien, dans cette perspective, relève des lois du royaume de Dieu, ça c'est normal. Il est donc appelé à se séparer du monde, à en sortir en quelque sorte, car la communauté chrétienne, j'y arriverai, est comme l'anticipation du royaume de Dieu. Et c'est l'enseignement de Jésus et de tout le Nouveau Testament qui sert de fondement à cette vision des choses, et en particulier le sermon sur la montagne, qu'ils veulent vraiment vivre en pratique. Les adeptes de la contre-culture font de l'expérience communautaire, donc de l'Église, le seul témoignage dans la société. Nous sommes plus ici, comme dans l'approche des deux règnes, dans l'opposition, comme chez Luther, entre la loi des hommes et l'Évangile, mais dans l'opposition entre la nature humaine non régénérée et l'Esprit Saint, de l'autre côté. Alors, j'ai pris ici un petit passage de la confession anabaptiste de Schlagsheim, en Suisse, qui date de 1527, ça vous donnera une idée. Voilà ce qu'ils disent. « Tous ceux qui ne sont pas entrés dans l'obéissance de la foi et ne sont pas réconciliés avec Dieu pour vouloir faire sa volonté sont une grande abomination devant Dieu. Car il n'y a dans le monde et toute la création que bon et mauvais, croyant et non-croyant, ténèbres et lumière. Le monde et ceux qui sont sortis du monde, le temple de Dieu et celui des idoles, Christ et le diable, et aucun ne peut avoir part avec l'autre. » Alors, cette partie-là me semble reposer sur ce texte de 2 Corinthiens qu'on va prendre maintenant. Je vais quand même vous dire que parfois les confessions de foi, elles ont un soutien biblique. Voilà ce que Paul dit, et rappelez-vous ce que je viens de dire par rapport à cette confession de foi. « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il me semble que cette confession de foi, la partie que j'ai lue, repose quand même en très grande partie. On y retrouve quasi les oppositions du texte de Paul. Alors, les sept points de doctrine repris dans cette confession, je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus, mais sont au demeurant intéressants. Alors, il parle du baptême, toujours les anabaptistes. Le baptême est réservé aux croyants adolescents ou adultes qui se sont repentis et croient que le Christ est mort pour eux. Autrement dit, ils demandent la nouvelle naissance pour le baptême. Alors, il y a aussi, dans la confession de foi, c'est très de l'époque, c'est l'excommunication. En fait, est exclu de l'Église. Mis à l'écart du croyant qui a péché, ceux qui tombent dans le péché devraient être avertis deux fois dans le secret, mais au troisième délit, je mets le délit, ils devraient être excommuniés, donc virés de l'Église. La Sainte Cène, seuls ceux qui ont été baptisés peuvent participer à la Sainte, ce qui n'est pas le cas dans les autres modèles protestants, il faut bien le comprendre. Ça. Peut-être un peu plus chez Calvin, mais chez Luther, n'oubliez pas que tous ces gens, quand même, surtout Luther, un héritage catholique. Puis il parle de la séparation d'avec le mal, séparation complète, d'avec toutes les institutions politiques et toutes les églises multitudinistes, donc comme l'Église catholique, et les églises protestantes, luthériennes, calvinistes, etc. Et interdiction de faire la guerre. Le multitudiniste, pourquoi? Parce que multitudiniste, ça vient de multitude. Ce sont des églises qui accueillent la multitude. Moi, si demain je vais communier à l'Église catholique, personne n'a rien à me demander. Comprenez? Donc, vous baptisez les bébés, donc ces gens sont supposés être quelque chose. Mais ils ne sont pas nés nouveaux, Bible en main. D'accord? Alors, pasteur, ça peut paraître bizarre, mais ils disent nomination de pasteurs qui peuvent enseigner et conduire l'Église. Donc, c'est l'Église qui nomme les pasteurs. Dans le luthéranisme, ou dans le catholicisme, ou même dans le calvinisme, ce n'est pas vraiment ça. C'est un synode, c'est un collège, vous voyez, extérieur à l'Église. On dit aux Églises, voilà votre pasteur. Vous me suivez? En règle générale, dans le protestantisme évangélique, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça ne fonctionnait pas comme ça chez les anabaptistes non plus. C'est important aussi, interdiction d'user de l'épée. Alors que d'autres protestants étaient des soldats qui tuaient des gens. Donc c'est non-participation à l'institution judiciaire, à quelque titre que ce soit. Comme juge, comme témoin ou comme plaignant. Ce qui était intéressant aussi, petite parenthèse, c'est que moi, par exemple, en tant que pasteur, je ne peux pas être juré d'assises. Je suis exempté d'office. C'est dans la loi. Je ne peux pas être appelé à être juré, ce qui m'arrange bien, quelque part. Pourquoi? Parce que l'accusation va dire que je suis trop compréhensif et la défense va se dire, je serai récusé dans les deux cas, la défense va se dire, c'est un pasteur, donc il est trop droit. Donc, coupable, si le coupable est coupable, le péché, il doit payer. Voilà. Et, dernier petit point de cette confession, interdiction du serment. On ne jure pas. Jurer dans le sens prêter serment. Je jure sur la Bible, etc. On ne peut pas. Donc, pour eux, tout être humain est donc dans un camp ou l'autre. Soit chrétien sous la loi du Christ, ou non chrétien sous celle du diable et du pouvoir politique. C'est pour ça que j'ai dit que la ligne est entre les mondes, entre les royaumes. Donc, selon cette vision des choses, le chrétien peut comprendre la nécessité pour la paix civile d'avoir des juges et des soldats, mais lui, en tant que chrétien, est appelé à autre chose. Il doit suivre le plus fidèlement possible le sermon sur la montagne qui lui demande d'aimer ses ennemis, de tendre l'autre joue, de ne pas juger et de ne pas prêter serment. Il ne peut donc pas lui-même participer au service de l'État en ce qu'il pourra avoir de répressif ou de violent. Un anabaptiste ne deviendra jamais policier, même si parfois la répression policière est nécessaire au maintien de l'ordre public. Mais un anabaptiste, un vrai chrétien, il ne va pas aller se trouver dans une situation où il va devoir donner des coups de matraque aux gens. Donc moi, un chrétien viendrait et dit, tiens, je veux rentrer à l'armée, si c'est pour aller faire la cuisine, aux messes, pourquoi pas. Si c'est pour faire paracommando et potentiellement être envoyé sur des lieux d'activité et tuer des gens, même s'il le fait au nom de la démocratie et qu'il tue peut-être des méchants, ça ne correspond pas vraiment à l'enseignement de Jésus dans l'enseignement sur la montagne. Ça étant l'autre jour, il faudra m'expliquer comment on fait la jonction, quoi. Donc ceux qui opèrent au sein de ce modèle considèrent que Dieu ne met pas en œuvre son salut par des mouvements culturels qui sont extérieurs à l'Église, car la société humaine sera toujours ce qu'elle a été, l'empire des puissances, des mouvements oppresseurs et des systèmes qui écrasent des êtres, que ce soit par l'économie ou le politique. En d'autres termes, le monde est l'empire du mal et est sous la domination du diable. Il n'y a donc aucune amélioration à attendre, même pas de la chose démocratique, car elle est elle aussi corrompue par le péché de ceux qui la font vivre. Nous ne devons donc pas avoir d'espoir quant à une transformation positive de la culture ambiante. La différence entre le monde et le royaume du Christ manifeste cette réalité. D'un côté, un système basé sur le pouvoir et la gloire de l'homme, et de l'autre, le royaume de Christ, une communauté basée sur l'amour, le service, le renoncement au pouvoir et la gloire de Dieu. Alors, il est évident que la radicalité des positions anabaptistes était due en grande partie à la situation de persécution que ceux-ci connaissaient à l'époque. L'État qu'ils avaient à l'esprit était celui qui les pourchassait pour les mettre à mort. Donc, voilà. Mais ils priaient pour ces gens. Et s'ils les trouvaient, ils se faisaient tuer. Mais voilà, ils n'allaient pas prendre des armes pour se défendre. Alors de nos jours, cette approche reste néanmoins celle de nombreux protestants évangéliques, même s'ils ne savent pas d'où ça vient. Avec, c'est vrai, ça et là, quelques petites adaptations, mais le fondamental reste. L'Église n'est pas seulement le lieu où la parole est prêchée et où les sacrements sont administrés, comme dans la pensée de Luther ou d'Augustin, c'est la communauté qui vit déjà dans ce monde les principes du royaume de Dieu. Au passage, j'essaie de vous amarrer à un modèle, pour plusieurs éléments, soit. Alors, l'une des remarques que l'on pourrait faire par rapport à ce modèle, en tout cas dans sa lecture la plus extrême, c'est qu'aucune avancée significative dans différents domaines de la société, et je l'ai dit tout à l'heure, n'aurait été possible sans que des chrétiens ne s'investissent en son sein. Je l'ai dit, la démocratie, malgré toutes ses limitations, ne vient pas de nulle part, et il en va de même pour l'abolition de l'esclavage. Donc si les chrétiens n'avaient pas dit, il y a certainement des choses à faire pour que ça aille mieux, et pour qu'il y ait plus d'égalité, d'équité, etc., il y a plein d'avancées sociales que nous n'aurions plus, que nous ne connaîtrions pas. Il semblerait donc qu'il faille admettre l'investissement d'enfants de Dieu ayant reçu un appel au sein de ce monde pour y défendre des valeurs essentielles au cœur de Dieu, comme le fait qu'il n'existe qu'une race, c'est la race humaine, que les hommes ont été créés égaux devant Dieu et qu'il fallait donc que certains hommes se battent pour faire émerger cette vérité chère au cœur de Dieu. Et elle n'est sans doute pas la seule. Puis d'autres, surtout des femmes, des chrétiennes, qui s'investissent pour arrêter le trafic d'êtres humains, la prostitution. Il y a beaucoup de chrétiennes, protestantes, évangéliques, qui se battent, qui ont monté des organisations, qui se battent, qui se mettent physiquement en danger dans des endroits pour libérer des esclaves sexuels. Si on a une position extrême quant aux séparations, on dit, tant pis pour elles, quoi. Prier, quoi. Ça, c'est bien, il faut le faire. Mais bon, une fois, vous connaissez la barque. Deux rames, tu pries seulement, ta barque, c'est une rame, elle tourne en rond. Tu ne pries pas, t'agis, c'est l'autre rame, mais tu tournes en rond. Pour que ça change, il faut et prier et agir. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage d'être là et de se dire, tant pis quoi. Tu vois une injustice dans la rue, je suppose que vous allez instinctivement essayer quand même d'intervenir. Pas dire, tant pis pour lui ou pour elle, c'est comme ça. Moi, je suis plus du monde. Voilà. Même si je suis plutôt un anabaptiste sur le modèle d'église, mais en attendant, il faut peut-être, comme souvent, éviter les extrêmes. On s'en rendra compte la semaine prochaine. Alors pour terminer, j'aimerais prendre notre passage de Romains 13, qui a donné lieu à notre réflexion justement sur ces différents modèles de rapport entre l'Église et le monde. Et je vais vous lire ce texte, c'est-à-dire 7 versets. Donc c'est Paul forcément qui écrit. que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc voilà, on retrouve la notion quand même ici chez Paul du royaume commun, de la grâce commune. Et lui est passé en justice plusieurs fois. Il défendait sa cause, c'était voilà, et là, au moins une fois, il a été acquitté, ça on le sait. En effet, ce n'est pas pour rien que le magistrat donc porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, donc la colère de Dieu, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Paul avait compris, tout en étant juif, hein, dans les juifs, ils avaient un problème avec l'impôt, romain en tout cas, Paul avait compris que sans ça, il n'y a aucune structure étatique qui tient, qui pourra tenir. Je l'ai déjà dit, je pense, dans un message sur la dernière semaine de Jésus à Jérusalem. Rappelez-vous, j'avais dit que Pilate voulait faire construire un aqueduc en Judée pour amener de l'eau, parce qu'il y avait souvent des pénuries d'eau, des gens qui mouraient de soif. Les Juifs ont refusé de payer. Oui, donc l'impôt, il servait aussi à ça. Bon, on a toujours l'Empire romain, les légions, oui, mais en attendant, une société, ça se structure. Il faut payer l'impôt. Donc un chrétien, il paye ses impôts. Il élude par l'impôt, il fraude par l'impôt. Je précise, hein. Donc le chrétien, même s'il a beaucoup de sous, il ne fait pas appel à un fiscaliste qui va l'aider à éluder une partie de l'impôt. C'est de la pratique, hein, ça. Donc un chrétien ne deviendra pas fiscaliste non plus. Il ne va pas aider d'autres à éluder l'impôt. Vous voyez, il y a quand même des conséquences. Hein. On va tous être chômeurs à la longue. Avec tout ce qu'on ne pourra plus faire. Enfin, encore une fois, je dis ça, c'est mon avis. Hein. Vous ferez ce que vous voulez. Donc Paul continue, rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je prends ça pour moi aussi. Hein. Parfois, j'ai été pas gentil avec notre roi. Voilà. Donc, quelle que soit l'approche qui est la nôtre, quant au rapport que doit entretenir l'Église avec le monde, une chose reste, c'est que les autorités de l'État ont un rôle à jouer en ce monde et que ce rôle est voulu par Dieu. Aucun positionnement chrétien ne peut donc déboucher sur de l'incivisme par rapport aux êtres qui peuplent notre terre. Nous devons nous montrer solidaires de tous les hommes puisque nous vivons encore dans le même monde et que c'est ce que nous commande l'amour du prochain. Aucun chrétien, par exemple, Bible à l'appui, ne pourra jamais justifier de frauder l'impôt car celui-ci permet justement une plus juste redistribution des richesses, en tout cas en démocratie. À quel niveau cette redistribution doit-elle se faire ? Quelle est la part de responsabilité personnelle qui incombe aux êtres humains quant à leur situation? Ça, c'est à votre responsabilité de chrétien et de citoyen, justement les deux, hein, de le définir en choisissant pour qui voter, tout en restant conscient qu'aucun gouvernement terrestre n'aura la solution à tous les problèmes. On donne beaucoup d'argent aux familles monoparentales, vous savez, parce que les femmes sont seules avec des enfants. C'est une responsabilité collective. On a décidé en tant que gouvernement, en tant que société, d'aider ces femmes plus que les autres. Certains partis défendent cette position à l'extrême. D'autres sont plus nuancés en disant « Personne n'a obligé cette femme à épouser un imbécile et à faire quatre gosses avec. » Parce qu'au départ, il y a une décision personnelle. Donc, est-ce que le collectif doit, au bout du compte, systématiquement et de plus en plus, assumer toutes les mauvaises décisions personnelles des êtres humains, quoi? Voilà. Ben, la réponse à cette question vous mettra d'un côté du spectre politique ou de l'autre, ou quelque part plus au centre. Mais ça, c'est à vous à le décider en âme et conscience devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu et de citoyen le jour où vous serez dans l'urne. Alors, si Paul rappelez-vous, appelé à prier pour les autorités de son temps, qui n'étaient il ne vivait pas en démocratie, Paul, hein, vous aurez compris. Il disait de prier pour les autorités. Je crois qu'aujourd'hui, il appellerait toujours à prier pour eux ou pour elles, mais aussi à voter, encore une fois, en notre âme et conscience. Alors moi, parfois, le politique, j'ai du mal à suivre, mais peu importe. Il faut continuer à honorer la liberté que Dieu nous a accordée, entre autres au travers de la propagation des valeurs de l'Évangile au sein de la société occidentale qui a amené au développement de la chose démocratique en Europe. C'est comme beaucoup d'autres choses, mes amis, hein. C'est fragile. On a l'impression que les choses seront là tout le temps, hein. Ne croyez surtout pas ça. La démocratie meurt finalement parce que les gens qui sont supposés l'animer finissent par s'en désintéresser. Nous ne sommes plus du monde, c'est vrai. Et c'est merveilleux parce que ça signifie que nous sommes des enfants de Dieu, des citoyens du royaume. Mais nous sommes encore bel et bien dans ce monde avec un rôle à y jouer. Et il en va de notre responsabilité et du sens de notre présence sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.